Bonjour, bonjour, Dissidence est de retour sur HDR 99.1. L'émission d'aujourd'hui vous est proposée et présentée par Les Alternatifs. Shérif est aux manettes. Et l'émission, le thème de l'émission d'aujourd'hui portera sur le nucléaire militaire. À un moment où notre bien-aimé président de la République vient de d'inaugurer un nouveau sous-marin lanceur d'engins, tout en faisant un discours sur, la prochaine politique du pays en matière de défense nucléaire. Nous allons essayer d'aborder ces sujets-là de la façon la plus claire possible, avec les alternatives que nous sommes, c'est-à-dire Thomas et Daniel, et un invité,
Jean-Paul Hébert. Alors, Jean-Paul Hébert est enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, docteur en économie et puis aussi directeur du CIRPES, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche pour la paix et d'études stratégiques. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour
Jean-Paul.
Bonjour Daniel, bonjour Thomas, c'est exact. Bonjour Shérif aussi. Et bonjour HDR, qui est une très bonne radio. Alors quand t'as bien aimé le président, ça je sais pas, on verra après.
Allez, est-ce qu'on n'a pas senti les guillemets au moment où je l'ai dit ?
Non mais je les souligne.
Alors, on va commencer par le discours tenu par Nicolas Sarkozy il y a quelque temps, au moment de la présentation au peuple français, disons-le comme ça, de notre nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Terrible. Journée au cours de laquelle le président a aussi annoncé apparemment une future réduction du nombre de têtes nucléaires française. Est-ce que tu pourrais nous faire un point sur ce qu'il en est exactement et sur l'état de la force nucléaire française aussi par rapport aux autres nations dans le monde ?
C'est ça. Au moment où on parle, donc Nicolas Sarkozy a annoncé que la France allait réduire d'un tiers le nombre de ses armes nucléaires. Alors, un tiers, pour l'instant, c'est un chiffre global. Hein. On ne sait pas exactement à combien on va arriver, sans doute à moins de 300 têtes. À l'heure actuelle, la France a 348 armes nucléaires qui se décomposent en 60 bombes transportées par des avions, alors par des rafales, ça on le sait bien, par des Mirage 2000 aussi, et puis par des super étendards de la marine. Donc, les 60 bombes qui peuvent être livrées, comme on dit dans le jargon, on livre des bombes, on bombarde pas, on livre.
C'est
un anglicisme, parce qu'en anglais c'est tout deliver, et donc en français c'est devenu on livre. C'est moins effrayant aussi. Vous savez, sur ces choses-là, les mots sont très importants. Hein. Donc on livre des bombes qui peuvent être livrées par avion. 60. Et puis, il y a donc les têtes nucléaires qui sont sur les sous-marins. Et là, actuellement, on en a 288. Alors j'explique un tout petit peu comment ça se décompose. Un sous-marin nucléaire, ça emporte 16 missiles. Et chacun de ces 16 missiles, il porte, lui, 6 têtes nucléaires. Donc un sous-marin, c'est 6 fois 16, 96 armes nucléaires. Et donc, on a 4 sous-marins au total, mais on n'a pas une panoplie d'armes pour les 4 sous-marins, on n'a que 3 panoplies. Hein. Donc 3 fois 96, voilà. Si vous faites la multiplication, vous trouverez que ça fait 288. Et donc, on a au total 348 têtes nucléaires. Alors, 348 têtes nucléaires, c'est plus que la Chine. La Chine en a 145. C'est plus que la Grande-Bretagne, qui en a 160. C'est beaucoup, beaucoup moins que les États-Unis ou la Russie. Les États-Unis, à l'heure actuelle, ont un peu plus de 5000 têtes nucléaires. Exactement, ils en ont 5045. Quand je dis 5045, c'est 5045... comment dire, prêts à l'emploi, si je puis dire. Hein, parce qu'il y en a qui sont stockés, mais on les compte pas, celles-là. Et puis, la Russie en a un tout petit peu plus, 5614. Voilà. Mais simplement, quand on parle d'armes nucléaires comme ça, je voudrais juste rappeler ce que ça peut représenter. Hein, parce que on dit... J'ai dit tout à l'heure sur les sous-marins, donc un missile, ça a 6 têtes. Bon, les 6 têtes du missile, au total, ça fait à peu près 1 mégatonne. Alors, on est habitué à ce vocabulaire-là. Hein. On dit 1 mégatonne, bon, on sait plus ce que ça veut dire.
Est-ce que ça fait mal ?
Ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Parce qu'une mégatonne, ça veut dire 1 million de tonnes. C'est l'équivalent de 1 million de tonnes de TNT, hein, de plastique, si vous voulez. 1 million de tonnes, c'est 1 milliard de kilos de plastique, de TNT. Si dans le studio ici, on met 1 kilo de TNT, on est tous morts, il n'y a plus de studio. Hein. Donc un missile comme ça à 6 têtes, ça emporte 1 milliard de kilos de TNT.
C'est plus qu'Hiroshima ?
Ah oui, oui, Hiroshima, c'était 20 kilotonnes, c'était 20 000 tonnes de TNT. Et si on réfléchit une seconde, hein, 1 million, donc 1 mégatonne, 1 million de tonnes, les plus gros bombardiers actuels, les bombardiers américains, les fameux B-52, mais aussi les B-2, etc., qui sont des très gros appareils, ils peuvent emporter l'équivalent de 10 tonnes de bombes. Hein. Nos avions de combat, à nous, Rafale, etc., ça peut emporter une tonne et demie. Bon. Un très gros bombardier, ça peut emporter 10 tonnes de bombes. Si on voulait avoir l'équivalent avec des explosifs classiques, il faudrait envoyer 100 000 bombardiers, 100 000 avions bombardiers pour faire l'équivalent, hein, transportant chacun 10 tonnes de bombes. Tout ça, c'est pour dire que le nucléaire, on est un peu habitué à vivre avec, si je puis dire, depuis Hiroshima. Et à la limite, on se dit, bon, bah, ça explosera jamais, finalement, on est habitué et tout. Mais il faut bien considérer que si ça n'explose pas beaucoup, c'est justement parce que le jour où ça exploserait, on est tous morts. Le nucléaire dans le monde, ça représente l'équivalent, suivant la façon dont on compte, mais de 10 à 20 tonnes d'explosifs par tête d'habitant. Chaque personne de cette planète dispose de 10 à 20 tonnes d'explosifs. Si on veut s'envoyer en l'air, on a vraiment de quoi, hein, en une seule fois et en 1 million de particules. Hein. Donc le nucléaire, c'est aujourd'hui encore une arme sans équivalent. Hein. Ça n'est pas du même ordre que n'importe quelle arme classique. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment le manier avec précaution.
Et justement, est-ce qu'on a une idée... assez précise de ce que ça nous coûte en termes économiques. La politique de défense nucléaire, la politique de force de dissuasion, puisque c'est comme ça que le général de Gaulle l'a nommé, son coût financier.
Bon, il y a un certain nombre d'estimations. Sur l'ensemble de la période, on est dans un ordre de grandeur, donc depuis 1960, quoi, hein, depuis presque 50 ans d'ailleurs, hein, on est dans un ordre de grandeur de 230 à 250 milliards d'euros. Hein. C'est à la fois beaucoup sur la période, et en même temps, ça n'est pas extrêmement élevé, hein, puisque ça fait une moyenne de 5 milliards d'euros par an. Alors, c'est pas très élevé entre guillemets si on compte par rapport à ce que ça implique comme position dans le monde, parce que le nucléaire, ça sert principalement à être puissant, à être au Conseil de sécurité, à être respecté entre guillemets. Et le vocabulaire, donc force de dissuasion, comme tu le disais, c'est important. Hein. Tout à fait au départ, on ne parlait pas de force de dissuasion. Vous trois dans le studio, vous n'étiez pas nés, mais moi j'étais né, on parlait de force de frappe. Bon. Mais force de frappe, très vite, on a pensé que c'était un vocabulaire trop agressif. Hein, et que le nucléaire, ce n'était pas fait pour frapper d'abord, mais c'était fait pour dissuader. C'est-à-dire, c'était fait pour empêcher qu'un agresseur quelconque se dise « Tiens, je vais envahir la France pour prendre ses coquelicots, ses réserves de Bordeaux, etc. » Et donc, c'est fait pour empêcher, pour faire qu'une invasion soit trop coûteuse, hein, quelqu'un qui voudrait porter atteinte à la liberté du pays, etc., à sa capacité, que ce soit trop coûteux pour lui. Et à cette époque, la doctrine... C'était ce qui s'appelait une doctrine de destruction mutuelle assurée. Alors, en anglais, destruction mutuelle assurée, je vais le dire avec mon excellent accent anglais,
ça va passer. Hein,
c'est Mutual Assured Destruction, dont les initiales, ça fait MAD. Et MAD, mad en anglais, ça veut dire aussi fou. Hein. Mais si je puis dire, il y avait une certaine logique dans cette folie, au sens où c'était l'idée, si jamais tu m'agresses, eh bien, je meurs, mais tu meurs aussi. Hein. Et le général de Gaulle avait d'ailleurs répondu ça à l'ambassadeur soviétique, hein, parce que quand la France a construit sa force de dissuasion, ça a été assez mal accepté, j'y reviendrai. Ça a été mal accepté, et entre autres, un jour, dans un repas officiel, l'ambassadeur soviétique, à l'époque, à Paris, dit au général de Gaulle, mais écoutez, ça n'est pas raisonnable, parce que si jamais vous lanciez vos armes nucléaires sur la Russie, on riposterait et vous mourriez. Et le général de Gaulle, imperturbable, a répondu, eh bien, monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Et donc l'idée, c'est ça, hein, c'est que c'est tellement destructeur que ça doit empêcher quiconque de s'attaquer. Et quand je dis ça a été mal accepté, ça c'est un petit peu oublié, on parle beaucoup aujourd'hui des problèmes de la prolifération nucléaire. Il ne faut pas oublier que toutes les puissances aujourd'hui du Conseil de sécurité ont tour à tour été considérées comme des proliférateurs. Alors, sauf les États-Unis, parce qu'ils les ont eu en premier, et la Grande-Bretagne, comme elle était très liée aux États-Unis, ça n'a pas posé de gros problèmes. Mais quand la Russie, en 1949, fait exploser sa première bombe atomique, tout le monde considère que c'est absolument terrible, dramatique, qu'on va avoir la guerre nucléaire demain matin. Hein, ouais. La France, à son tour, quand la France, puissance membre de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, normalement amie des États-Unis, etc., quand la France, donc sous l'impulsion du général de Gaulle, construit et fait exploser ses premières armes atomiques, les responsables américains mènent toute une campagne pour expliquer que ce sont des forces atomiques, ils disent tierces, ça veut dire autres, hein, tierces, dangereuses, coûteuses, inutiles. Hein, ils font toute une campagne pour expliquer que c'est une prolifération dangereuse. Hein, et quand la Chine, à son tour, a des armes nucléaires, alors là, je ne vous raconte pas comment c'est considéré comme absolument dramatique. Hein. Donc ça, c'est pour relativiser un tout petit peu le discours aujourd'hui. Hein, on accuse plein de pays de vouloir avoir l'arme nucléaire en disant ça va être terrible, effroyable. Hein. Ah bon, oui. Il faut penser que chaque fois qu'un pays nouveau a eu l'arme nucléaire, tout le monde a considéré que ça allait être l'apocalypse demain matin.
Bah justement, on va voir ça après la petite pause musicale. Donc, quels sont les pays qui, justement, aujourd'hui...
qui possède la bombe, qui la désire,
qui l'a
eu...
Qui la possède, on sait.
Et qui ne l'a plus.
Qui va l'avoir, on va voir ça.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques... Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Voilà, c'était Boris Vian, donc avec la Java des bombes atomiques.
99.1. Les alternatifs sont toujours présents pour vous parler du nucléaire militaire avec Jean-Paul Hébert. Avant la pause, on a pu faire un point sur l'état actuel du nucléaire militaire français et sa signification, son coût. Jean-Paul, on évoque très souvent le traité de non-prolifération nucléaire. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce en quoi ça consiste, de quand ça date, et puis sur les puissances, les nations qui possèdent actuellement l'arme nucléaire, qui la souhaite, qui la désire, et qui l'a possédée mais ne l'a plus?
D'accord. Alors, le traité de non-prolifération, effectivement, c'est un texte important. Ça date de 1968 dans la première version. Et c'est un traité qui essaye de, qui vise à ce qu'il y ait le moins possible d'armes nucléaires dans le monde, enfin de nouveaux pays dotés d'armes nucléaires. Et il va introduire une distinction qui est très importante hein, et qui distingue dans les pays du monde entre ceux qui ont réalisé un essai nucléaire à la fin de l'année 1967, 5 pays qui sont tous membres du Conseil de sécurité de l'ONU.
Par hasard.
Membre permanent, je veux dire, du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les États-Unis, l'URSS à l'époque, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Donc ces 5 pays constituent une première catégorie qui, dans le traité, s'appelle, alors, je m'excuse pour les initiales un peu barbares, ça s'appelle EDAN, E-D-A-N, ce qui veut dire État doté d'armes nucléaires. C'est 5 pays. Et deuxième catégorie, les États non dotés d'armes nucléaires, qui sont tous les autres. Et le traité consiste en deux choses. D'une part, les États non dotés s'engagent à ne pas acquérir d'armes nucléaires. Et les États dotés s'engagent à n'aider aucun pays à acquérir des armes nucléaires. Ça, c'est l'aspect non-prolifération militaire. Mais en même temps, les pays dotés d'armes nucléaires, donc qui ont cette espèce de privilège, puisqu'on leur reconnaît une espèce de droit particulier que n'ont pas les autres à avoir ces armes nucléaires, eh bien, ces pays-là s'engagent normalement, d'après le traité, s'engagent d'une part à aider les États non dotés développer l'utilisation pacifique, civile du nucléaire, hein, dans l'idée de développer l'énergie, etc., toutes les applications pacifiques de l'énergie atomique, d'une part, et d'autre part, alors clause souvent oubliée, et d'autre part, à engager un processus de démantèlement progressif de leurs propres armes nucléaires.
Ouais, c'est là alors, que ça coince, quoi.
C'est là que ça coince un peu parce que pendant longtemps, cette deuxième clause alors, a été complètement ignorée. Hein, c'est-à-dire
complètement
que...
ignorée. Mais il n'y a pas eu quand même une période où on parle toujours de cette période quoi, d'après la guerre froide, où on parle de détente. Et donc, il n'y a pas eu, à un moment donné, quand même, cette clause, elle n'a pas été un peu respectée ou...
Alors, tu as raison de dire qu'il y a eu plusieurs périodes. Dans la période classique de la guerre froide, c'est-à-dire celle où les deux blocs, l'OTAN d'un côté et le pacte de Varsovie de l'autre, se regardent en chien de faïence, dans cette période-là, il y a accumulation d'arsenaux énormes, puisque les États-Unis, de leur côté, et l'URSS du sien... ont environ, à cette époque, 20 000 têtes nucléaires. 20 000 têtes nucléaires. Mmh. Et avec des tailles allant depuis des mines nucléaires déposées sur les frontières jusqu'à des engins de 100 mégatonnes, c'est-à-dire une folie énorme. Bien. Fin des années 80, pour l'URSS, ça devient manifestement impossible à financer économiquement. L'URSS est dans une situation de plus en plus bloquée du point de vue de l'économie. Et donc, il commence à y avoir un certain nombre de traités où on s'efforce de diminuer les quantités des arsenaux, tout simplement parce que c'est devenu irrationnel au sens propre du terme. C'est insensé, c'est fou. 20 000 têtes nucléaires, on peut mourir qu'une fois quand même, hein, malgré
oui,
le,
oui.
Sauf quand on est James Bond où ouais, on meurt voilà. Que deux fois. Bon, mais hormis cette hypothèse, et les chats qui ont 9 vies, mais en dehors de cela, on meurt qu'une fois. Hein, donc 20 000 têtes nucléaires, ça n'a plus aucun sens militaire, aucun sens stratégique. Bon, et ça coûte très cher. Et donc,
ah oui, c'est aussi pour ça.
Ah oui, bien sûr, c'est essentiellement pour ça.
Il y a la question de l'espérance de vie aussi d'une tête nucléaire.
Alors c'est ça. En plus, c'est pas. Il faut au bout d'un certain temps soit la remodeler, soit la détruire, soit la renouveler, hein, parce que ça s'use même quand ça ne sert pas, si je puis dire. Et heureusement. Ça s'use, et puis il y a un certain nombre de processus électroniques, etc., qui doivent être modernisés. Et donc, fin des années 80 et début des années 90, il y a la période de dissolution de l'URSS, de disparition du pacte de Varsovie, retrait d'un certain nombre de conflits, hein, et quelques années où on parle des dividendes de la paix, et où on a l'espèce d'espérance d'un monde où il va y avoir un peu moins de guerre, un peu moins d'action militaire, et entre autres, de diminution des stocks nucléaires. Mais à mon avis, cette diminution des stocks, elle était faite essentiellement pour des raisons économiques. C'est que c'était trop cher et c'était devenu évidemment sans signification. Ce qui d'ailleurs est la même question pour nous aujourd'hui. Quand Nicolas Sarkozy annonce qu'on va réduire le nombre de têtes, c'est essentiellement pour avoir un instrument nucléaire qui soit moins coûteux. Hein. Il y a quelques mois dans Le Monde, journal Le Monde, un article signé entre autres par Henry Kissinger et trois autres anciens responsables de la politique américaine, la politique militaire américaine, et dont aucun d'entre eux n'est connu pour être un pacifiste, et qui expliquait la nécessité de réduire immédiatement le nombre d'armes nucléaires dans le monde, etc. Une seconde, on se dit, mais attendez, ces gens-là, d'un seul coup, sont convertis à un pacifisme. Non, pas du tout. l'idée, c'est que le stock actuel est devenu trop important, et qu'il faut le remodeler, il faut l'adapter à une situation où, dans le monde, il suffit, pour les États-Unis ou la Russie, il suffit qu'ils aient quelques centaines de têtes nucléaires. 5000 têtes, c'est beaucoup trop. Ça n'a plus de sens. Ils ne sont plus en confrontation l'un contre l'autre. Hein. Donc il suffit qu'ils aient des armes nucléaires en quantité réduite, avec des caractéristiques d'ailleurs qui vont nous poser des problèmes dans l'avenir, où ils sont en train d'essayer de penser ce qu'ils appellent dans le jargon des mini-nukes. Alors là, encore, mon anglais n'est pas terrible, mais en gros, ça veut dire les petites noix. C'est-à-dire l'idée, c'est on pourrait faire des mini-mini-armes nucléaires. Alors mini-armes nucléaires, hein, même une mini-arme nucléaire de 10 kilotonnes, vous savez, ça fait quand même 10 000 tonnes. Hein. Bon, hein. Mais il y a l'idée que ça pourrait être simplement une espèce de super-artillerie, c'est-à-dire un explosif un peu plus gros que les autres, hein, mais qu'on pourrait donc utiliser pour faire la guerre. Sauf que, évidemment, on voit bien que le jour où un pays utiliserait une de ces mini-nuques, comment voulez-vous que les autres se disent « Ah ben non, c'est pas grave, c'était une mini ». Hein, si c'est une arme nucléaire qui explose, avec les effets de ça, avec les radiations, etc., ce sera une arme nucléaire, point. Et on s'engagerait dans ce cas-là, dans une espèce de processus que personne ne contrôlera. Parce que le voisin se dira, mais attendez, s'il m'a lancé une arme nucléaire, moi je vais en lancer une aussi, et puis j'ai des gros mini-nuques, et on entre dans une escalade qui sera incontrôlable.
Hein. Ça légitime une éventuelle utilisation, et là on repasse de la force de dissuasion, on retourne à la force de frappe.
Hein. Absolument. Alors c'est une des très grosses différences entre les discours américains et français sur le sujet. Alors j'emploie le mot discours parce que ces armes-là, vous savez, elles sont maniées essentiellement avec des mots. Hein. C'est-à-dire la seule fois où ils ont été utilisés réellement, c'est à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Depuis, ce sont des instruments qu'on utilise avec des mots. Les discours qui vont avec sont les discours qui donnent le sens, hein, qui font que ça a tel ou tel effet sur les relations internationales et qu'on se dit, bon, ce pays est grave, sérieux ou pas, enfin, il veut ceci ou cela. Mmh. Et donc, les discours américains et français sur le sujet sont traditionnellement très différents. Le discours français, c'est le discours dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui de la menace du suicide mutuel. Alors, on peut dire que c'est un pari fou, mais ça a une certaine cohérence, hein, et surtout, ça refuse de considérer que le nucléaire pourrait être une arme de bataille. Hein. Si on devait un jour se servir du nucléaire, ce serait d'abord l'échec de la dissuasion, puisque ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à dissuader, hein, et ce ne serait que dans une espèce de suicide. Voilà. Alors que le discours américain est en train d'évoluer lentement vers l'idée qu'il pourrait y avoir, comme on dit dans le jargon encore, une réponse flexible, hein, c'est-à-dire une utilisation de théâtre, hein, sur un champ de bataille. Et ça court le risque, évidemment, d'enclencher une escalade qu'on ne pourra pas contrôler. D'autant que, pour répondre à l'autre question que tu posais, c'est-à-dire qui a des armes nucléaires aujourd'hui, on a dit tout à l'heure, bon, il y a les 5 puissances du Conseil de sécurité, il y a aussi 3 autres pays maintenant qui ont l'arme nucléaire, officiellement, l'Inde et le Pakistan. Alors dans ce couple terrible, vous savez, enfin couple terrible, je veux dire, les deux pays ont une histoire compliquée depuis l'indépendance. Ils ont fait 3 guerres quand même.
C'est une poudrière.
C'est une poudrière. Ils ont une certaine capacité quand ils font la guerre à avoir un niveau de massacre qui les classe dans les premiers rangs. Et ils ont donc maintenant des armes nucléaires. Et puis il y a Israël qui a aussi des armes nucléaires.
Mais attends, oui. tout ça c'est depuis longtemps ils ont l'arme nucléaire. C'est arrivé quand
Israël depuis les années 60. En gros.
Ah oui, d'accord. Oui, donc ça
et avec l'aide essentiellement de la France. Hein, les armes atomiques israéliennes ont été construites avec l'aide française.
Et puis le Pakistan est là.
Et l'Inde et le Pakistan, c'est depuis les années 70. Hein. Alors ça avait donné
donc
lieu.
Donc c'était en plein désarmement en fait.
Non, le désarmement, c'est la période ultérieure.
La non-prolifération dont on parlait,
oui.
C'est
oui, mais ils n'étaient pas signataires. Oui, mais le traité de non-prolifération dont on parlait, c'est 1968. Mais ces pays-là n'étaient pas signataires du traité de non-prolifération. Ils n'ont pas transgressé le traité.
Donc qu'il y en a qui étaient en train de se dire on va peut-être arrêter un petit peu, ou au moins réduire, d'autres étaient en train de s'équiper.
Oui, parce que ça donne un certain rang dans le monde. Hein, ça fait que les pays qui ont l'arme nucléaire ne peuvent pas être traités de la même façon que ceux qui ne l'ont pas. Ce qui explique que d'autres pays aient voulu l'avoir. Ce qui explique que Saddam Hussein ait voulu avoir l'arme nucléaire. Peut-être que s'il avait eu l'arme nucléaire, les guerres du Golfe ne se seraient pas déroulées, par exemple. Hein, qu'on ne s'en prend pas de la même façon à un pays qui a une arme nucléaire, à un pays qui ne l'a pas.
Voilà, donc ces pays-là, du coup, à partir de ce moment-là, ont été traités autrement.
Oui, tout à fait. Théoriquement, l'Inde et le Pakistan, par exemple, faisaient l'objet d'un certain embargo, y compris de la part des États-Unis. Mais tout compte fait, le président Bush lui-même est allé faire un voyage en Inde pour expliquer que finalement, bon, quand même, on pouvait s'arranger, que l'Inde était un grand pays raisonnable et que d'ailleurs, on pouvait lui vendre des avions de combat, etc., etc. Hein.
Bon, puisqu'ils ont.
Oui, puisque de toute façon, ils l'ont et qu'on va pas leur retirer.
Mais quelle est la pertinence pour Israël de ne pas assumer officiellement la possession de l'arme nucléaire ?
Parce que ça laisse l'incertitude. C'est-à-dire la difficulté, une, de dire qu'on arme l'arme nucléaire, deux, de dire dans quel cas on l'emploierait, ça veut dire qu'on délimite exactement tous les cas où on ne l'emploierait pas. Hein ? Bon. Quand le président français, par exemple, dit l'arme nucléaire sert à défendre nos intérêts vitaux, il évite soigneusement de dire nos intérêts vitaux commencent à Strasbourg. Hein, parce que sinon, on dit dans ce cas-là à l'autre, tu peux aller jusque-là. Hein. Bon. Et donc, tout le discours compliqué sur l'arme nucléaire consiste à laisser planer la menace d'une façon crédible, mais sans la formaliser trop précisément. Hein. Et donc, dans le cas d'Israël, il y a tout ceci. Il y avait en plus la méfiance dans une période où les pays arabes étaient en train de s'équiper, où la montée des cours de pétrole donnait aux pays du Golfe, en particulier, entre autres à l'Arabie Saoudite, des moyens financiers extrêmement importants, donc achats d'arsenaux et tout. Donc, il y avait une politique ici et encore, ça n'est que tout à fait récemment que Israël a, en quelque sorte, admis, et encore non pas officiellement, mais dans des discours, le fait qu'il possédait l'arme nucléaire, hein, et parce que certains chercheurs israéliens ont publié des documents sur le sujet. Hein, mais sinon, c'est une information, même si tous les milieux un peu spécialisés sur le sujet savaient, ça n'était quand même, c'était une information qui était censée être discutable. Voilà. Donc ça, c'est les pays qui l'ont. Et puis, peut-être après une pause, on pourra dire les pays qui l'ont eu et qui ne l'ont plus.
Voilà, c'est ça, exactement.
À tout de suite. We'll be right back.
Donc c'était Destruction du groupe Morphoex.
Et les alternatives.
Il y avait de la musique dedans ?
Bah oui, oui. Ah bon ? Oh ! Ouh !
Conflit de génération.
J'ai entendu que la batterie.
Ah oui, bon.
Et la batterie de canon.
Et nous voilà de retour, toujours sur 99.1 HDR, c'est Dissidence, émission des alternatives sur le nucléaire. Avant la pause, on a pu faire un point sur le traité de non-prolifération nucléaire, notamment les puissances qui détenaient l'arme nucléaire de façon officielle, celle qui la détenait de façon plus officieuse. Est-ce qu'on peut faire un point aussi, Jean-Paul, sur les nations qui ont, dans le passé, possédé l'arme nucléaire, mais qui ne l'ont plus ?
Oui, parce que c'est un point qui est assez souvent ignoré. Il y a plusieurs pays qui ont eu l'arme nucléaire ou qui s'étaient engagés assez loin dans la fabrication d'armes nucléaires et qui ne l'ont plus. Le cas le plus connu, c'est l'Afrique du Sud, hein, qui avait fabriqué qui possédait 6 armes nucléaires, qui avait fait une expérience aussi et qui a renoncé au moment de l'entrée dans le processus démocratique et du changement, de la fin de l'apartheid, etc. Un peu avant, a renoncé et a détruit ses armes nucléaires. Antérieurement, la Suède s'était engagée assez loin et était prête à faire un test nucléaire en 1968. Et à ce moment-là, pour des raisons politiques générales du pays, qui est un pays plutôt pacifiste, on peut dire, pacifique en tout cas, a décidé d'arrêter et de mettre fin à ses recherches. Il y a 2 pays d'Amérique latine aussi, le Brésil et l'Argentine, qui ont renoncé à leur recherche. Alors, le Brésil et l'Argentine, c'est un tout petit peu comme l'Inde et le Pakistan. Hein. C'est un couple de pays puissants qui ont des relations un peu compliquées, un peu comme Rouen et Le Havre chez nous, des choses comme ça, en plus grave. Et ils étaient tous les deux engagés dans une espèce de course à la recherche nucléaire et qu'ils ont, dans les années 80, arrêté au moment où certains régimes dictatoriaux se sont effondrés. Et puis enfin, il y a le cas de 3 pays de l'ex-URSS, hein, qui sont l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan. Dans ces 3 pays-là, il y avait des armes nucléaires qui étaient des armes nucléaires russes, mais stationnées sur le territoire de ces pays. Et quand l'URSS s'est dissoute en 1991, il s'est posé le problème, que vont devenir ces armes ? Est-ce qu'ils vont rester sur le territoire de ces pays ? Est-ce qu'ils vont garder la haute main, la capacité de décision sur ces armes-là ou pas ? Il y a eu un petit peu d'incertitude, il y a eu des négociations, et finalement, ces 3 pays ont renoncé à garder ces armes nucléaires. Ils ont rendu ces armes nucléaires à la Russie. Hein. Et on peut dire donc que, d'une certaine façon, ils sont passés du statut de pays non propriétaire, mais en tout cas ayant une capacité nucléaire, au statut de pays n'ayant plus d'armes nucléaires. Voilà. Donc ça veut dire que il y a certains retours en arrière qui sont possibles. Hein. Alors c'est pas tout à fait général comme cas, mais c'est quand même arrivé dans l'histoire. Hein. Un certain nombre de pays ont renoncé soit aux armes, soit aux recherches qu'ils avaient entrepris. Voilà.
Ok, d'accord. Par rapport au traité de non-prolifération, on a tendance à parler du traité de non-prolifération nucléaire, mais apparemment, il existerait d'autres traités, toujours dans cette logique de limitation, moins connus, dont on parle moins. Est-ce qu'on peut faire un point sur ça ?
Oui, parce qu'il y a plusieurs traités. Le nucléaire, hein, on se rend bien compte que le nucléaire militaire, c'est un objet extrêmement compliqué. Hein. Et extrêmement compliqué et extrêmement dangereux. Hein, et donc il y a un certain nombre de précautions ou de tentatives de précautions qui sont prises. Alors, la plus connue, donc on l'a dit, c'est le traité de non-prolifération. Mais il y a plusieurs autres sortes de traités. Il y a d'abord des traités signés par des pays dans des zones géographiques, hein, et qui s'engagent à dénucléariser ou à être exempts d'armes nucléaires. Il y a depuis 1959 un traité signé par quasiment tout le monde sur la dénucléarisation de l'Antarctique. Hein. C'est un continent dans lequel, depuis ce temps-là, il n'y a aucune activité nucléaire militaire possible. Tout est interdit, donc signé par toutes les puissances nucléaires. Il y a depuis 1967 le traité de Tlatelolco qui organise la dénucléarisation de l'Amérique latine. Depuis 1985, le traité de Rarotonga, qui concerne cette fois le Pacifique Sud. Et puis depuis 1996, le traité de Pelindaba, qui concerne l'Afrique. Donc tous ces continents, Antarctique, Amérique latine, Pacifique Sud, Afrique, sont théoriquement des zones dans lesquelles il ne peut pas y avoir d'armes nucléaires. Alors, sauf qu'il y a de temps en temps...
Théoriquement ou dans les faits, il n'y en a pas ?
Dans les faits, il n'y en a pas. En tout cas, on n'en connaît pas. Mais voilà, ça organise l'absence, l'interdiction, alors non seulement de possession, mais d'emploi, de transit d'armes nucléaires dans ces zones. Ça, c'est les aspects géographiques.
Tous les pays du Sud, en gros
Pas tous les pays du Sud, parce qu'il reste quand même toute la zone Asie, qui n'est pas rien, toute la zone Moyen-Orient, Proche-Orient, qui n'est pas rien non plus.
Ah oui.
Donc c'est une certaine... C'est un début, si on peut dire, c'est un début de sagesse quand même. Il y a un début de pédagogie, de sagesse là-dedans. Si il est légitime que l'Amérique latine décide qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires dans son continent, ça peut donner à penser quand même au reste du monde. Voilà, bon. Et puis, alors ça, c'est les aspects, les limitations géographiques. Il y a des limitations qui sont géographiques aussi, mais liées au relief. Interdiction, par exemple, des essais nucléaires dans l'atmosphère depuis 1963. Il faut se souvenir que jusque-là...
Dans l'atmosphère, attends...
Oui, les essais nucléaires récents sont des essais souterrains. Ce sont des essais où donc, les effets sont un peu confinés parce qu'on creuse un grand puits dans le granit, etc. On bouche ensuite et donc les radiations ne s'échappent pas, etc. Mais jusqu'en 1963, il y avait des essais atmosphériques en plein air, au Sahara, mais aussi sur les îles de Bikini et autres.
Ah, c'est ça que tu appelles atmosphérique, c'est comme Mururoa
en plein air, Non, à Mururoa, attention, Mururoa, c'était des essais souterrains. Mais les essais français au Sahara, par exemple, étaient des essais en plein air. On avait un pylône et dessus on mettait la bombe et elle explosait. Et donc tout ça repartait dans l'atmosphère.
Ah oui, d'accord.
Et ce qui posait donc d'évidents problèmes de pollution, de cancer, etc. pour les populations. Bon. Donc depuis 1963, les essais atmosphériques sont interdits. De même, il y a un traité qui interdit l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Cette fois, c'est les satellites. Alors ici, il faut être honnête. Enfin, on est tous honnêtes, bien entendu. Mais je veux dire, il faut avoir la lucidité de dire qu'on ne sait pas exactement jusqu'à quel point ce traité est respecté. Il y a deux grandes puissances spatiales qui sont les États-Unis et la Russie. Il m'arrive, je vous le dis, d'avoir des doutes sur le fait qu'ils respectent le traité. Il n'est pas complètement impossible qu'il y ait parfois une arme nucléaire, une petite, qui soit oubliée là-haut. Sachant qu'il y a un certain nombre de satellites qui ont des réacteurs nucléaires. Alors, réacteur nucléaire, c'est un réacteur civil, mais s'il y a un réacteur nucléaire, du réacteur à la bombe, parfois la limite peut être ténue, on peut se tromper des fois. C'est ballot, j'ai mis une bombe, mais flûte alors. Mais enfin, en principe, c'est interdit. De même, il y a un traité depuis 71 qui interdit de placer des armes nucléaires sur le fond des mers. Donc il y a une série, c'est important, le fond des océans. Donc il y a une série de limitations de ce type dans l'idée de ne pas accumuler l'ensemble des dangers possibles. Ça ne réduit pas le portée ou le nombre total d'armes nucléaires, mais ça essaie de limiter quand même le champ d'extension, les endroits où on peut les employer, sachant que plus il y en a, évidemment, plus on risque un jour d'avoir un souci. Et puis, il y a même eu un traité qui était politiquement alors assez intéressant, en 1972, qui est un traité signé uniquement entre les États-Unis et l'URSS, qui était ce qui s'appelait le traité antimissile balistique, qui était un traité qui... où les deux pays s'interdisaient de construire des armes antimissiles. Dans l'idée que s'il y en a un qui construisait des armes comme ça, il serait invulnérable, donc il serait éventuellement tenté de taper sur l'autre, et que si l'autre éventuellement pensait que le premier était en train de construire ça, il pouvait être tenté d'envoyer ses armes avant que l'autre ait réussi à faire son bouclier. Et donc c'était l'idée, on n'a pas le droit d'avoir un bouclier total. C'est-à-dire
donc pas de missile antimissile.
Pas de missile antimissile. Sauf La seule restriction, c'était chacun des deux pays s'accordait la défense d'un site. Hein. Donc les Russes avaient une défense antimissile autour de Moscou, les Américains avaient une défense antimissile autour d'un de leurs silos de missiles. Hein. Mais pour le reste, l'idée, c'était on n'a pas de bouclier, hein, ce qui est la preuve qu'on ne veut pas attaquer, hein, et ce qui laisse la possibilité de riposter. Bon. Ce qui était, alors c'est un peu compliqué comme opération psychologique, mais ça fonctionnait un peu, sauf que, eh bien, il y a 2 ans, les États-Unis ont dénoncé le traité antimissile balistique de 1972. Hein.
Pourquoi ?
Et donc, parce qu'on est entré dans une période où les relations entre les États-Unis et la Russie se sont refroidis, si je puis dire.
Oui, ça refroidit, oui.
L'avancée de l'OTAN, le fait qu'un certain nombre de pays qui étaient auparavant dans le pacte de Varsovie soient maintenant membres de l'OTAN et qui rapprochent donc les fusées américaines des frontières russes a entraîné une certaine crainte et une certaine réaction en Russie. Hein, et il y a une espèce d'escalade dont on pourra éventuellement parler peut-être après la pause, une espèce d'escalade de dégradation des relations internationales sur ce plan-là. Mais on en parlera peut-être après une courte pause.
Certainement.
On se retrouve tout de suite.
J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là. Ma poitrine, je m'incline. Je vous fais signe. Je vous dis. Coupone ça ma pendo, coupone ça ma pendo. Nani saïdia, nani saïdia, natu saïdia batata, batoto, batoto. I wanna save it. Do it, I have to follow my way. Il faut sauver,
ça nous dit que
il faut sauver tout.
Et je dis
brûle la 4
Et donc c'était Braka des Zap Mama qui parle donc qui dénonce l'utilisation des armes en Afrique.
Voilà, et nous voilà de retour.
Et là il y avait de la musique.
Et là il y avait de la musique, oui, et des paroles. Oui. Nous voilà de retour pour une dernière partie avant la pause. Jean-Paul, tu avais commencé à nous parler de la dégradation des relations internationales sur cette question du nucléaire. Est-ce qu'on peut faire un point sur ça ?
Oui, parce que c'est assez important. Il faut bien voir qu'après la dissolution de l'URSS, la chute du mur de Berlin, etc., la position de la Russie dans le monde est une position très en retrait. Hein. Ce pays-là, pendant plus de 40 ans, joue une partie presque égale avec les États-Unis. Et puis voilà, d'un seul coup, c'est l'écroulement économique, c'est l'écroulement politique, les frontières explosent. Tous les pays auparavant dominés, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, etc., échappe à l'emprise, l'URSS elle-même comme union avec l'Ukraine, le Kazakhstan, la Géorgie, la Biélorussie, etc., tout ça disparaît. Et dans les années 90, la Russie, au fond, se retrouve dans un rôle de pays de second rang, en quelque sorte. Hein. Ce pays-là, qui était un des plus gros vendeurs d'armes, presque autant que les États-Unis, ne vend presque plus rien, hein, et on commence à le regarder un petit peu de haut. En plus, l'image du pays n'est pas très très bonne, avec le président Eltsine qui abuse parfois de la consommation de produits qui ne laissent pas forcément la tête entièrement libre, hein, et donc une image un peu dégradée de la Russie. Bien. Pendant ce temps-là, l'OTAN, si je puis dire, s'agrandit. Un certain nombre de pays anciens du pacte de Varsovie adhèrent à l'OTAN, hein, et les États-Unis ouvrent des bases dans les républiques d'Asie centrale, Kirghizistan, etc. Et tout ça inquiète un peu la Russie. Or, les choses ont changé en Russie. Il y a un pouvoir nouveau qui est un pouvoir qui a mis de l'ordre dans ce pays. Alors, il l'a mis dans les conditions qu'on connaît. Hein. Vladimir Poutine n'est pas nécessairement le dirigeant le plus démocrate de la région. Ceci dit, dans un pays où il y avait des mafieux, où il y avait des groupes qui avaient pris le contrôle, qui s'étaient accaparés toute une partie de l'économie, il a, d'une certaine façon, remis un peu d'ordre dans le pays. Il a restauré une certaine image, une certaine capacité de la Russie à intervenir sur la scène internationale, y compris en prenant des positions sur les conflits internationaux, Irak ou autres, plus subtils que ce qui pouvait exister dans le passé.
Mais et dans peut-être le même... plus subtils que ce que la position qu'ils ont en Tchétchénie.
Absolument, oui. Non, mais le cas de la Tchétchénie, là, il n'y a aucune
soit
subtilité.
Dit en passant,
en Tchétchénie, c'est un génocide, hein, il faut le dire. Bon, clairement, c'est des massacres absolument insupportables. Mais sur d'autres questions internationales, Irak ou autres, oui, les positions étaient plus nuancées et plus habiles du point de vue russe. Mais en même temps, les États-Unis ont commencé à développer leur système de défense antimissile, donc ce dont je parlais tout à l'heure, en proposant d'installer en Pologne et en République tchèque des moyens de détection et de lancement de missiles, et donc presque aux frontières de la Russie. Alors, théoriquement, l'objet de ces installations-là, c'est pour contrer la menace iranienne, dont on dira peut-être un mot si on a le temps.
Ben oui.
C'est théoriquement pour contrer la menace iranienne, il n'empêche que c'est juste aux frontières de la Russie, et qu'on peut comprendre que, du point de vue russe, il y ait un peu d'inquiétude, voire une certaine hostilité à l'installation de ces moyens-là.
Oui, parce qu'en deux mots, de toute façon, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires.
Non, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Il y a de très longues enquêtes, on le sait, qui sont menées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est la structure justement définie par le traité de non-prolifération comme celle qui doit surveiller, contrôler ce qui se passe dans le monde. Bon, toutes les enquêtes jusqu'à présent montrent que, même si le discours iranien est un discours ambigu, pour l'instant, il n'y a pas de preuve d'armes nucléaires en Iran. Une. Deux, l'idée que la politique de l'Iran pourrait être d'attaquer avec des missiles nucléaires les États-Unis ou un pays européen, il faut quand même dire que c'est une faribole absolument incroyable. Personne ne peut penser sérieusement que ça a un quelconque sens, ne serait-ce que parce que l'Iran, même si ce régime a une mauvaise image, parce que le président actuel, de temps en temps, quand même, il faut bien dire, sort des limites de ce qu'est une raison démocratique et politique internationale. Bon. Mais même si ce pays a une mauvaise image, il faut quand même dire que c'est un pays qui n'a pas envahi de voisins depuis fort longtemps. ce qui n'est pas le cas de l'Irak, par exemple, ou d'autres pays de la région. L'Iran, on peut critiquer son régime, on doit critiquer son régime, d'ailleurs, quand il n'est pas démocratique, hein. Mais il faut reconnaître aussi, ce n'est pas un pays qui a une politique d'expansion guerrière. Donc l'idée qu'il pourrait construire des missiles pour attaquer les États-Unis est une idée, c'est une idée de propagande qui est très utilisée par Mme Rice, et par le président Bush, et par le vice-président Dick Cheney, etc., pour justifier la politique nucléaire américaine, mais c'est une idée qui n'a aucune réalité, ça n'a aucune vraisemblance. Bon, Donc, la nécessité de construire un appareil de défense contre les missiles uraniens qui menaceraient toute la planète, c'est une représentation du monde qui est totalement étrangère à la réalité, mais qui inquiète à juste titre la Russie, et qui d'ailleurs n'est pas forcément accepté comme tel par un certain nombre de pays européens non plus. Et donc, tout ça, ça introduit, ça fait évoluer les relations internationales dans un climat de méfiance qui s'accumule, hein. Comme le président Poutine, on l'a dit, et son successeur, qui n'a pas fait disparaître complètement le pouvoir politique de Vladimir Poutine, mène dans un certain nombre de cas des politiques qui sont injustifiables, hein, on l'a dit pour la Tchétchénie, hein, tout ça fait que les relations internationales, à l'heure actuelle, ont quitté la zone de dividendes de la paix dont on parlait pour les années 90, hein, et sont entrées dans une zone de turbulence. Comme en même temps, on a une représentation du monde où les États-Unis tiennent un discours disant « nous sommes en guerre contre le terrorisme », on est entré dans une période difficile, dans une période dangereuse. Parce que le terrorisme, ça n'existe pas.
Non.
Il y a des terrorismes qui correspondent à des situations différentes. Et encore, la qualification de terroriste, il faut la regarder au cas par cas. Il n'y a pas une généralisation, une. Deux, il n'y a pas une unité du terrorisme. Ce qui se passe au Timor oriental est une chose. Ce qui se passe en Colombie en est une autre. Et ce qui se passe au Moyen-Orient en est encore une autre. Il n'y a pas une unité de tout ceci. Et quand on dit guerre au terrorisme, on entre dans une certaine représentation des relations mondiales, mais qui est une représentation qui pose de sérieux problèmes. Hein. Voilà. Donc on est dans un mouvement général où la réduction du nombre de têtes nucléaires, qu'on pourrait penser a priori être un symptôme de pacification du monde, en fait correspond à un changement d'équilibre, à une réorganisation des dispositions militaires des principaux pays. Et en ce sens, il faut qu'on reste très vigilant sur ce qui est en train de se passer et de se décider en notre nom. Tout simplement, et je conclurai là-dessus, quand on apprend que la France, que au nom de la France en tout cas, on va envoyer 1000 soldats supplémentaires en Afghanistan, on peut se demander pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on fait là-bas exactement? En quoi est-ce que ça sert les intérêts de la paix dans le monde? La réponse est loin d'être évidente.
Et en fait, je me suis posé juste une petite question à un moment. Bon, c'est vrai que ça ne conclut pas, mais il y a eu des missiles qui ont été envoyés quand même en Irak pendant la guerre, là, et qui contenait des déchets nucléaires
C'est des armes, qu'on appelle à uranium appauvri.
C'est des déchets nucléaires civils.
Oui, mais c'est pas un effet de radiation. C'est simplement parce que l'uranium, c'est un métal qui a une masse volumique très importante. Masse volumique, ça veut dire que un litre d'uranium, ça pèse 21 kilos. Et que donc, quand on fait une arme comme ça, eh bien, elle perce plus facilement les blindages parce que c'est très très lourd. L'uranium appauvri, c'est ce que Tabarly mettait dans la quille de ses bateaux parce que sous un volume restreint, c'est beaucoup plus lourd. Hein.
Ah, d'accord.
Ouais, donc voilà, on pourrait en parler des heures et des heures. C'est un sujet extrêmement riche. On espère avoir réussi à vous donner plus d'informations sur cette question ô combien centrale. Dissidence sera de retour après les vacances. La prochaine émission des Alternatifs, elle aussi reviendra après les vacances. Émission spéciale féminisme, donc un sujet là aussi encore très passionnant. Petite note pour les Alternatifs et tous ceux qui sont intéressés par les Alternatifs, vous retrouverez la chorale des Alternatifs aujourd'hui à partir de 12h30 à la salle Villon à la Maine, Marom.
Ouais.
Voilà, et bien écoutez,
Attends, la prochaine émission n'est pas celle des alternatifs, mais il y aura celle de Judy Kael.
Celle de Judy Kael après les vacances. Et vous connaîtrez le thème de cette émission le jour même, puisque nous n'en avons pas la moindre idée.
Voilà.
Merci à Chérif.
C'est un secret.
Voilà,
c'est
merci à Chérif qui était aux manettes et à Jean-Paul, notre consultant de luxe. À très bientôt. Restez sur HDR 99.1. Bye bye.
Ciao.
Le père le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston?
Je vais aller faire la révolution.
Mais ça plus petit bon sang, je te donne pour le temps bon, assez d'argent.
Contre la société de consommation, je peux aller faire la révolution.
La révolution.
Je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles.
On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester.
Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure.
Les différences de classe, nous les supprimerons. C'est pour ça qu'on fait la révolution.
La révolution. La
tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents.
Non, pas passé des CRS, et je m'en vais leur botter les fesses.
Mais voyons, fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça?
Oh papa, je t'en prie, tu déconnes, c'est la peur du rouge, on veut ta corne.
C'est la révolution. La
enfin explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce con Bendy?
Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution.
Ah.